Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable ! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh !
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine, ravi de vous retrouver. On est lundi, on démarre une nouvelle semaine avec notre générique que vous connaissez bien désormais et notre invitée du jour, vous allez la reconnaître. Dans quelques instants, c'est une actrice qui ne connaît pas la signification du mot chômage, car depuis sa première apparition au cinéma, dans Le Colonel Chabert, c'était en 94 où elle donnait la réplique à son père. Cette comédienne a multiplié les films, les téléfilms, les séries, les pièces de théâtre et que sais-je encore, César du meilleur espoir féminin, du meilleur second rôle féminin pour sa performance dans La Petite Lily. Vous l'avez adoré dans Podium ou alors, comme moi, un petit faible pour les yeux jaunes du crocodile. Des crocodiles, si elle vient nous voir sur ce plateau, c'est qu'elle s'apprête à reprendre la blouse d'une médecin légiste toujours aussi imprévisible. Bonjour Julie Depardieu.
Bonjour.
Merci de nous rendre visite. Merci. Alexandra L, c'est le nom de votre personnage, mais aussi de la série. Qui recommence sur France 3 demain à 21h05, les inédits hein, évidemment, vous retrouvez votre tenue de légiste,
oui.
Bernard Hierles, votre complice, le commandant de police, dans un épisode qui s'intitule très sobrement La Peste. Alors dites-moi, j'ai une première question comme ça, est-ce qu'en pleine crise du Covid-19, vous êtes dit, bah tiens, c'est une bonne idée de faire réapparaître cette maladie du Moyen-Âge, les gens n'ont pas assez des virus.
C'est-à-dire que nous avions commencé le tournage, le Covid n'était pas encore, et on a interrompu, mais on était en train de faire un truc qui s'appelait La Peste, ouais, par parenthèse.
Et c'était écrit avant en fait.
Oui, ça a été écrit avant, et on en mourait beaucoup plus, je crois que c'était 1/3.
Ouais. Hein. À l'époque, oui.
Voilà, ce qui est loin de nos pourcentages actuels. De Covid.
Donc c'était fait avant, mais est-ce que vous pensez aujourd'hui, après avoir tourné ça, après vous êtes un peu renseigné finalement sur la peste, que au final le coronavirus c'est pas grand-chose par rapport à certaines épidémies.
Voilà, je suis obligée de le dire, oui. Et d'ailleurs dans le téléfilm on a des masques, on joue avec un peu les masques, mais la peste est hyper grave.
Ouais.
Et donc on l'a attrapé, donc on est tous contagieux, mais je suis médecin. J'ai peut-être
la solution.
Peut-être. Et donc on a tous des masques. Et mais c'est vrai qu'on en mourrait évidemment. Et là, je pense que la crainte absolue dans laquelle on vit, c'est quand même compliqué.
C'est difficile, oui.
Moi, je trouve.
Vous n'êtes pas la seule. Je vous rassure. On est en direct avec Julie Depardieu sur Figaro Live, sur tvmag.com et sur la page Facebook de TV Magazine, cette fameuse page Facebook sur laquelle vous pouvez lui poser, bien entendu, toutes vos questions en direct. N'hésitez pas. Que pensez-vous de la série Alexandra L? Êtes-vous un fan de Julie Depardieu? Aimeriez-vous voir plus d'épisodes? N'hésitez pas, vous pouvez interpeller France 3 si vous le souhaitez.
Ouais.
Dans quel rôle aimeriez-vous la découvrir? Vos questions, vos remarques, toutes vos suggestions, elle répondra à cela après les news médias de Damien Canivez. Salut Damien.
Salut Nicolas. Bonjour Julie.
Bonjour.
On démarre tout de suite avec les audiences de ce week-end. On s'est concentré sur samedi soir.
Exactement. Et comme chaque samedi soir, c'est France 3 qui arrive en tête des audiences avec une fiction inédite de la collection Meurtre. Effectivement, saviez où c'était
Albi.
Exactement.
Mais je lis les nouvelles. Non, j'ai pas regardé. Mais je lis les nouvelles.
Eh ben voilà, Meurtre à Albi, 6,3 millions de téléspectateurs pour cette fiction effectivement portée par Léonie Simaga et Bruno Debrandt. À titre de comparaison, c'est quand même 2,4 millions de téléspectateurs de plus que Ninja Warrior sur TF1, qui signe un score assez timide mais néanmoins stable sur une semaine. Stéphane Bern enfile la médaille de bronze grâce à sa nouvelle émission musicale baptisée Symphonissime sur France 2. Et enfin, on termine avec cette chaîne qui, comme chaque semaine, effectivement, enregistre des très bons scores d'audience. Il s'agit de France 5 qui misait sur un nouveau numéro d'Échappée Belle, cette fois-ci direction l'île de la Réunion, en compagnie d'1,4 million de voyageurs, 6% du public.
Et hier soir, a souligné le score incroyable du Sens de la Fête sur TF1.
Ah, combien ?
D'après une diffusion inédite, 7,2 millions de téléspectateurs pour l'hommage à Jean-Pierre Bacri, notamment 45% sur les cibles. Jean-Pierre Bacri nous a quittés cette semaine, beaucoup de chaînes lui ont rendu hommage. Quel souvenir vous gardez lui ? Vous n'aviez pas tourné ensemble, hein,
Non, moi je ne le connaissais pas.
C'était un acteur qui a marqué son époque.
Moi j'adorais, bien sûr, j'ai revu Le Goût des Autres, qui est un film.
Extraordinaire.
Génial, ouais. Ah ouais, je trouve que ce film n'a pas pris une ride, je le trouvais bien écrit, c'est exactement ce que moi j'ai envie de voir. Et j'adore Bacri, ouais. comme tout le monde.
Il avait ce truc incroyable que personne n'a, c'est-à-dire cette particularité où il n'y avait que lui, en fait, à faire ce qu'il faisait.
Ouais, la mauvaise humeur, selon Bacri, c'est dément.
Ouais, la mauvaise foi qu'on aimait voir, comme Funès, d'ailleurs, un peu aussi, ce genre-là.
Ouais.
Damien continue ses infos médias avec une série sur le coronavirus, décidément. Vous aimez les virus?
On essaye de s'adapter à notre invité. On va parler un petit peu de Covid. Il s'agit de la première fiction portant sur le coronavirus, figurez-vous. Et c'est, selon la chaîne Britannic Sky, le réalisateur Michael Winterbottom s'apprête à signer une mini-série en 5 épisodes intitulée This Cryptid Isle. Alors, conçue à l'aide d'un journaliste du Sunday Times, cette fiction exposera les répercussions de cette nouvelle maladie sur la population en Angleterre, sur le corps médical également. Mais elle racontera aussi la façon dont le Premier ministre Boris Johnson a dû gérer la propagation du virus tout en étant lui-même contaminé. Souvenez-vous, il est quand même allé en soins intensifs, Boris Johnson. Alors, dans le rôle du politique à la chevelure blonde complètement ébouriffée, on retrouvera Kenneth Branagh, le célèbre acteur nord-irlandais, vous savez, de 60 ans, qui s'est récemment glissé dans la peau d'Hercule Poirot, dans le crime de l'Orient Express. Alors, le tournage de cette série devrait débuter, selon nos confrères, dans les prochaines semaines pour une diffusion sur Sky Atlantique et Now TV à l'automne 2020.
Aujourd'hui, on mange Covid, on dort Covid, on respire Covid. Enfin, non, on respire. Vaut mieux pas respirer Covid, mais pense que c'est judicieux de faire une série sur le Covid que les gens vont avoir encore envie de voir ça.
Bah, je pense parce que Michael Winterbottom, c'est vachement bien, non?
Bah, normalement, avec Kenneth Branagh.
Ouais, je pense que les Anglais savent faire des trucs. On va voir s'ils révèlent des choses.
Absolument. On termine, Damien, avec cette info qu'on a apprise ce matin.
Oui.
Et qui concerne le producteur Gérard Louvain.
Exactement. Selon Le Monde, un certain Olivier A., neveu de Gérard Louvain, a porté plainte contre son oncle et son mari pour viol sur mineur de moins de 15 ans par ascendant, complicité de viol sur mineur de moins de 15 ans par ascendant et corruption de mineur. Selon nos confrères, le plaignant âgé aujourd'hui de 48 ans relate des viols et autres agressions sexuelles subies à partir de l'âge de 10 ans et ce jusqu'à l'âge de 14 ans. Gérard Louvain, interrogé par Le Monde, nie ces allégations et avance une histoire d'argent. Alors, cette prise de parole s'inscrit dans le vaste mouvement de la libération de la parole généré par le livre de Camille Kouchner, vous savez, La Familia Grande. C'est un récit, on le rappelle, où elle rapporte des faits d'inceste présumé d'Olivier Duhamel sur son beau-fils âgé à l'époque de 13-14 ans.
Alors, je peux vous de commenter l'affaire, évidemment, mais est-ce que cette libération de parole, on a l'impression depuis presque MeToo, il y a 3 ans à peu près, qui est venue des actrices d'ailleurs aux États-Unis, est-ce que vous avez cette conscience aujourd'hui, est-ce que c'est important que cette parole se libère, que ce soit les femmes, les enfants ou les jeunes enfants, garçons ou filles victimes d'inceste, on a l'impression qu'aujourd'hui, ça y est, on peut le dire.
Ah, mais heureusement, moi je trouve ça. Mais heureusement, il paraît que je vous dis, il y a 10% de gens qui ont été touchés sans qu'ils le voulaient, quoi. Alors par leur famille, par leurs oncles, enfin c'est horrible. Et donc je trouve ça extraordinaire que ça se libère, oui. Je trouve ça heureusement qu'il est temps. Vraiment, j'ai rien d'autre à dire, mais heureusement. Et vive Camille Kouchner et son audace, et ce pauvre frère aussi, enfin je compatis pleinement.
Et dans le milieu du cinéma où vous étiez, au moment de libération de parole des femmes, c'était essentiel aussi. Est-ce que vous aviez senti ça? Vous l'avez vu par tes témoignages, peut-être, de gens que vous connaissez?
Oui, j'ai peut-être vu... peut-être, mais moi, c'est vrai que je ne me sens pas du tout concernée. Moi, ça m'est pas arrivé.
Bien sûr, il y a beaucoup de gens à qui c'est pas arrivé, heureusement.
Mais je sais que c'est arrivé à beaucoup de gens. Et surtout, cette histoire d'inceste dans les familles, je trouve ça urgentissime. Et heureusement, c'est en cours. Et je trouve ça même beau qu'il y ait un temps pour cette libération, pour cette parole. Qu'il y a encore 30 ans, c'était presque admis, 40 ans, à la télé, c'est fou.
C'est terrible de penser ça, mais c'est vrai, hélas.
Tout le monde défendait Foucault, et évidemment... ah non, je trouve ça heureusement.
Michel Foucault, on précise.
Pas
l'animateur.
Michel Foucault, pardon.
C'est fini, Damien, pour aujourd'hui.
C'est terminé pour aujourd'hui, Nicolas.
Évidemment, d'autres news médias. Dès demain, tout de suite, place à la grande interview du Buzz TV. Toutes vos questions, nous sommes en direct avec Julie Depardieu. Julie Depardieu est face à vous, évidemment, chers internautes. Elle va répondre à vos questions dans quelques instants, le temps que Damien récupère toutes ses questions. On est là pour parler d'Alexandra L, notamment ce téléfilm, enfin cette série hein, maintenant, ouais. puisque ça y est, un nouvel épisode inédit arrive demain, mardi, à 21h05 sur France 3, une série dans laquelle vous endossez le rôle de ce médecin légiste, comme on l'a dit. Et cette fois-ci, donc on en a parlé en introduction, vous allez vous pencher sur le corps d'un homme qui a succombé à la peste. Aujourd'hui, en 2020, ça paraît complètement incongru, donc vous allez devoir vous isoler, éviter de contaminer votre entourage. Est-ce que contaminer, s'isoler dans la vie perso, dans la vie professionnelle, à un moment, il n'y en a pas un peu marre?
Si, il y en a marre.
En fait, vous arrivez sur un tournage, on a envie de faire tout ce qu'on ne fait pas dans la vie. Et là, poum, on vous dit, bah, allez, remasque, re-isolement.
Ouais, mais en même temps, nous, les acteurs, on a quand même... on est les seuls qui n'avons pas de masque et qui se parlons à...
Bien sûr.
Mais là, du coup, on en avait, des grands masques en plastique, parce que j'ai la peste. Et je ne veux pas contaminer les autres. Mais à un moment, on va tous être en vase clos et on est tous contaminés. Mais je suis médecin. J'ai l'antidote, il y a plusieurs bacilles de peste.
Ouais, moi, vous
j'ai
avez des
compris lequel va nous soigner.
Alors, c'est quand même la peste noire date du XIVe siècle. Hein, oui. c'est vieux maintenant. Comment expliquez-vous que cette maladie revienne dans l'épisode, sans trop en dire, hein, mais... Est-ce que vous pouvez nous teaser un petit peu le pourquoi du comment ?
Eh bien, honnêtement...
Il faut regarder.
Non, mais voilà. Et l'auteur, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais en tout cas, c'était bien avant Covid qu'elle l'a écrit. Ouais. Donc, c'était l'histoire d'un jeune homme qui a fait des voyages sur son bateau. Il l'a attrapé. Donc, on essaye de se poser la question. Souvent, c'est par les rats, hein, la peste. Donc, je vais mener l'enquête. Ah, en ayant la peste. Et je vais parvenir, mais je ne vous le dis pas, bien sûr. En tout cas, c'était marrant, enfin, stupéfiant quand même, qu'on se soit arrêté pendant tout le confinement et qu'on ait recommencé juste après. Je crois que c'était en juillet, on l'a retourné, cet épisode qu'on avait arrêté pour cause de rester, tout le monde reste chez soi, confinement, machin. Donc je ne sais pas pourquoi l'auteur a pensé à ça, mais c'est quand même un bon à propos.
Alors il y a des allusions hein, dans l'épisode au Covid d'ailleurs.
Ah bah oui, parce 19, qu'on était en plein dedans.
Évidemment, ouais. et pourtant personne ne porte de masque dedans, ou très peu.
Non.
Est-ce que c'est envisageable pour que les fictions soient plus réalistes que demain, par exemple, on tourne un film avec des acteurs portant le masque? Ou est-ce que ça vous semble...
On verra dans le téléfilm, dans la série anglaise.
Ouais.
Je pense, mais quel ennui.
Ouais,
parce qu'il
terrible.
Paraît que même les enfants, ils ne voient pas la bouche des gens, ils ont un retard de langage.
Ouais.
Je ne sais pas quoi dire là-dessus, mais écoutez, moi j'ai hâte de voir le truc anglais, parce que je suis sûre que ça va m'apprendre des trucs.
Alors Alexandra, elle, c'est une héroïne un peu singulière, hein, évidemment. On commence à bien la connaître, on est au cinquième, sixième épisode, je ne sais plus, inédit le sixième. Quel mot vous utiliseriez pour la décrire et pour donner envie aux téléspectateurs qui ne la connaissent pas encore bien de venir la voir?
Eh bien, Alexandra, elle, c'est une médecin légiste qui fait que ce qu'elle veut. Vous voyez, elle ne s'embête pas des choses.
Elle vous ressemble un peu ou pas?
J'aimerais bien.
Ouais. Vous aussi, vous faites ce
que... C'est la vision fantasmée de moi-même. Ouais, bah... Parce qu'elle s'en fout.
Ouais.
Elle essaye de passer outre plein d'interdictions, notamment celle de son frère qui est policier. Et elle mène l'enquête à sa place. Et comme c'est son frère, il est vachement sympa avec elle, mais elle outrepasse plein de trucs. Et c'est vrai que ça fait rêver tout le monde de dire que c'est une fille qui a un...
Sans fil, qui fait un peu comme elle veut.
Oui.
Voilà, elle de s'affranchir des règles.
Voilà, et plus c'est interdit, plus elle s'en fout. Elle le fait quand même. C'est le rêve de tout Français. Hein. On fait ça, mais on le fait quand même.
C'est vrai, on aimerait bien. Damien, on va prendre des questions.
Oui, il y a beaucoup de personnes sur la page Facebook de TV Magazine. On salue Hélène, Sabine, Anaïs, Catherine. Il y a Alexandre aussi qui a une question qu'on posera un peu plus tard. Il y a beaucoup de femmes. À part Alexandre, hein, bien sûr, on ne va pas. Il y a Séverine qui est avec nous et qui aimerait savoir s'il est possible d'avoir davantage d'épisodes d'Alexandre à elle à la télévision. C'est vrai que vous en proposez assez peu par saison. Est-ce que vous pourriez en proposer 5, 6, des vraies saisons, quoi.
Ah, mais honnêtement, c'est pas du tout moi qui décide. Je pense que nous en sommes à 3 par an.
Mais pourquoi si peu ?
Mais je sais pas. Alors là, j'y connais rien. Je ne regarde pas du tout. J'en sais rien. Mais c'est peut-être bien. À vrai dire, vous voyez, je ne sais pas.
Mais vous aimeriez en tourner davantage ? Vous auriez le temps ?
Pourquoi pas ? Peut-être 5. Mais honnêtement... c'est des épisodes qui prennent un mois, donc on est content d'en faire 3, mais peut-être on va me dire d'en faire plus et je vous dirai.
Ça dépend de la qualité de l'écriture, c'est à peu près le nombre d'épisodes de Capitaine Marlowe, hein. Je crois que c'est 3 ou 4 par an.
Ouais, mais elle n'en fait pas plus. Là, elle en fait un, là.
Ah, là, ils sont en train de tourner,
ils
là.
Ils sont à Blois.
Oui, mais ça marche, ça cartonne, donc, donc c'est normal. Je voudrais revenir sur ce duo, vous l'avez évoqué, Bernard Herlès, qui joue votre frère dedans, le commandant de police. Et ça fait aussi le succès et le charme de cette série, cette espèce de binôme frère-sœur un peu incroyable. Comment vous qualifieriez ce binôme? Vous le connaissiez,
Je le connaissais, ouais. Bernard, il y a très longtemps, parce qu'il avait joué dans un film de Pierre Salvadori en 91, ou dans lequel
avec
mon frère
jouait. Avec votre frère, Guillaume, ouais. Les Apprentis.
Ouais, et... Oui, Les Apprentis, ou peut-être...
C'est extraordinaire.
Ouais. 91,
ouais, 12, 13, 14.
Et donc, moi, je pense que je venais de rater mon bac, très intéressant, ouais. Que j'ai repassé. Et je passais souvent voir mon frère. Et il était avec Bernard. Et je me souviens, Bernard, il ressemblait un peu à Gérard. Donc, il se foutait un peu de notre gueule parce qu'il l'imitait. Et donc, après, bon, 25 ans après... je le retrouve et c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est comme un cousin, je le connais, alors qu'on ne s'appelle pas tous les quatre matins, mais c'est vraiment quelqu'un qu'on est content de retrouver. C'est un acteur belge dans toute sa splendeur, le plus sympa de tous les acteurs. C'est vraiment important. Hein. Donc, tu vois, avec Bernard, t'es vachement content.
ça fait plaisir, effectivement. Ouais. Cette série, on l'a pas, a été créée par Elsa Marpeau, hein, qui est la scénariste à l'origine de Capitaine Marlowe, avec José Dayan, ouais. La célèbre série à succès de François. Vous aviez joué, d'ailleurs, dans un épisode de Marlowe. Les points communs entre ces deux héroïnes, il y en a plus qu'on croit, en fait, hein, entre
même.
Corinne Maciero et vous, non?
Quand même, elle fait que ce qu'elle veut, elle aussi.
Ouais,
non,
c'est un peu ça.
C'est sympa, elle fait ce
la
qu'elle veut.
La chapka en moi.
Elle okay. dit ce qu'elle veut. Moi, je suis plus, contenue. Je fais pas de participation au scénar. Enfin, j'essaie d'aménager comme je peux le dire moi. Mais oui, il y a beaucoup de points communs. C'est ces femmes qui dépassent des cadres et que peut-être on a envie de voir ça. Ouais. On est surpris de ce qu'elles peuvent faire. Mais moi, je vous dis, je suis quand même. Enfin. J'ai l'impression qu'elle désobéit encore un peu plus, mais enfin, comme elle est flic. Non, je pense qu'il y a vraiment des points communs dans la désobéissance et le côté anticonformiste où tout le monde, on est quand même tout le temps dans le modèle de ce qu'il faut faire comme ça. Bah, elle dépasse un peu des cadres et ça fait du bien.
Vous pensez que c'est ce qui fait aussi le succès de ces séries sur France 3, des héroïnes atypiques, on va dire, et qui sortent du cadre, qui... peut-être dans lesquelles les Français se reconnaissent ou aimeraient se reconnaître, la désobéissance, ouais. etc. C'est important de vraiment de sortir à suite, d'avoir des personnages singuliers.
Oui, ouais. Et puis, parce que là, on est tous très, très, très obéissants. C'est vrai. Qu'Alexandra, elle, c'est une respiration parce qu'elle fait des petites conneries. L'air de rien, un peu comme ça, parce qu'elle balaye. Voilà, il lui faut son mobile, elle mène l'enquête. Et ce qui est assez marrant, c'est que le fait que ça soit son frère qui soit commandant, donc je l'énerve. Ouais. Et puis lui, il est trop mignon parce que Bernard, dans ses amours, c'est la galère. C'est pas un si bon flic que ça parce que j'arrête pas de le court-circuiter. Donc c'est marrant, quoi. De côté, il me pardonne quand même si je l'énerve.
Damien.
Allez, on prend une question d'Alexandre qui aimerait savoir quel est l'acteur ou l'actrice avec lequel ou laquelle vous aimeriez jouer.
À qui vous n'avez jamais joué encore, alors
Une vieille ou une jeune?
Disons comme vous le souhaitez. C'est qui vous voulez.
On vous laisse le choix.
Alors, si vous dites une vieille, elle va être vexée. Bah,
non.
Choisissez une jeune.
Non, mais j'en ai plein en plus.
Lesquelles, comme ça, au hasard?
Eh bien, Fanny Ardant, j'adore. Ouais. Léa Seydoux, j'adore. Je l'ai vue à la télé hier. Moi, c'est comme mamie, c'est les noms de famille, hein, c'est les noms. Non, mais j'en ai plein que j'adore.
Dans le sens de la fête?
Non, mais j'ai pas regardé.
Ah non, vous n'avez pas regardé.
Ah mince!
Non, j'ai raté le truc que vous avez dit de Stéphane Bert sur la musique classique.
Ah oui, ça fait ici, mais ça c'était samedi.
C'est en replay sur France 2.
Moi, je vais le voir. Parce qu'on voit tout ce qui est musique. Moi, c'est beaucoup d'identification aux chanteurs classiques plus qu'aux acteurs.
Absolument.
Je pense qu'une grande chanteuse est une immense actrice. Vous voyez, les chanteuses classiques m'inspirent énormément. Ben, Cécilia Bartoli, je peux la regarder pendant des heures. Même quand ton gosse fait une colère, tu lui mets, il rigole.
Vous auriez aimé être chanteuse lyrique?
Ouais, mais je...
Vous avez essayé?
Oui, mais c'est pas bien. Donc je me suis dit, non, ben, c'est pas bon. Parce qu'après, il faut avoir une grande confiance. Et quand t'as concert, comment tu fais pour dormir? Comment tu fais pour avoir de la voix? Comment tu fais pour ne pas penser à la note que tout le monde attend? Que peut-être tu ne vas pas faire si bien qu'ils le pensent? Non, moi, mon idéal, c'est vraiment le chant classique, bien sûr.
Et on va en parler aussi, hein, de la chanson. Est-ce que pour le personnage d'Alexandre, vous avez eu des inspirations, Julie? Est-ce que vous êtes inspirée de personnages que vous avez vus? Des médecins légistes, on en voit régulièrement, hein, dans les films. Il y en a un qui cartonne sur la chaîne d'en face sur TF1 qui s'appelle Balthazar.
Oui.
Thomas Sisley, qui est un peu atypique comme vous, pas dans le même genre.
Ouais, mais il est vachement atypique. Moi, j'ai trouvé ça vachement bien.
Vous avez regardé aussi?
Ouais, j'ai regardé. Puis il voit les morts qui correspondent avec son ex.
Exactement.
Femme.
Ouais,
ouais. Moi, j'ai trouvé ça beau. Hein.
Quelqu'un d'intelligence très développée et qui effectivement.
Puis avec l'air cool quand même.
Ouais, bah oui, normal.
Donc non, j'ai trouvé ça vachement bien.
Mais vous êtes inspiré, vous, de quelque chose et regardé des médecins légis, des choses
non, pas tellement.
Par là, non?
Non, pas tellement. Parce que je me dis, il faut faire comme si c'était vrai, donc je fais comme si c'était moi. Donc j'essaye d'être un peu minutieuse, avec mais je ne suis pas sûre que ça soit filmé tout le temps. Non, je crois que le présupposé de départ, quand tu es acteur, il faut que tu y crois, il faut que les gens y croient, point. Donc tu y crois. Et je n'ai pas regardé.
Vous avez bossé avec des médecins sur le tournage pour des petits conseils pour être crédible?
Au début, en fait, il y a un médecin légiste qui est venu de Bordeaux. Et donc, je lui ai posé des questions. Mais alors, toi, où est-ce que tu te feras? Et comment tu feras quand tu es mort? Et bien, il m'a dit, je serai brûlée. Je fais, ah bon? Et puis, il m'avait dit, mais j'ai dit, mais alors, tu mettras où l'urne? Enfin, tu dis, les gens. Mais il me dit, dans un café. J'ai dit, OK. Donc, vous voyez, je pose des questions. Et en fait, j'essaye d'imaginer plus que de regarder des trucs sur les légistes. Je fais comme si c'était moi, je pense.
Et c'est vous?
Ouais, je me dis, bon, alors qu'est-ce que tu ferais face à ça? Alors que des piottes, des trucs où il y a des asticots, ça me dégoûte à fond, mais vous voyez, je garde mon sang-froid.
Ouais,
les jambes.
Vous disséquez de vrais animaux, d'ailleurs, dans la série? Parce qu'à un moment donné, on voit disséquer un rat, justement, pour
la
peste.
Non, mais c'était des vrais asticots.
Ah, c'était des vrais asticots, par contre.
Et un faux rat.
Un truc en latex, hyper bien fait. Très, très bien fait.
Allez, toute autre chose, on va prendre une question de Tristan qui souligne le fait que vous avez participé à Rush Hour 3. C'est vrai, ce film qui est... Multi-rediffusé. Il souhaite savoir quel souvenir vous gardez de Jackie Chan. C'est vrai, c'est un monstre du cinéma.
Ah ouais, il était très gentil. Je lui ai parlé, mais je parle très moyennement anglais. Donc on est parti à Los Angeles. J'ai dû partir au moins 10 jours pour donner une claque à Yvan Attal. J'ai pas tout compris. J'ai parlé à Jackie Chan, bien sûr. Je lui ai dit bravo.
Star planétaire. Ah ouais. Dieu en Asie.
Ouais. Et à l'autre aussi, comment il s'appelle?
Chris Tucker. Alors vous étiez à Los Angeles. Pour cette scène-là, alors que normalement, elle est tournée à Paris. Quand
même. Ouais, mais on est parti là-bas avec des décors français pas possible. Et Yvan Attal en face de moi. Et j'ai dû donner au moins peut-être 30 claques, 40. Parce qu'on s'engueulait, je crois. Je ne l'ai jamais revu, ce film. Ah, il passe souvent?
Il passe très souvent à la télévision.
Ah, Rush Hour, oui, c'est un classique.
D'accord, pardon. Ah, ouais. Et donc, c'est un souvenir. Los Angeles, 10 jours. Et Paris reconstitué là-bas.
10 jours, 30 claques.
Ouais.
C'est intéressant.
Et voilà. Et des conversations. Et j'arrêtais pas d'essayer de faire comprendre que je, faire que je comprenais ce qu'on me disait, et je comprenais rien. Et je me souviens, le metteur en scène, à un moment, il a dit amazing. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas bien. En fait, ça voulait dire c'est bien. Bah oui, j'avais pas compris. C'est vous dire. J'ai dit merde, il a dit un truc pas bien. Je sais pas ce qu'il a dit.
Alors, je vais revenir évidemment chez nous, en France. Enfin, c'est la même chose aux États-Unis d'ailleurs, hein, avec le monde de la culture qui est hélas totalement à l'arrêt.
Ah,
les salles de théâtre, de spectacle, de cinéma qui gardent malheureusement leurs portes closes. Quel regard vous portez sur ces mesures imposées par le gouvernement? Est-ce que ça vous rentre? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire quelque chose avec des jauges, en particulier dans des salles?
Moi,
qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que oui. Après, je ne vais pas me plaindre sur ça horrible, les acteurs qui disent... Mais je trouve que c'est quand même en tant que... Moi, ce n'est pas pour que moi je joue, mais j'ai envie d'aller au concert. Je pense qu'on ne risque pas plus que d'aller faire ses courses au supermarché, je ne pense pas. Et je pense qu'en plus, c'est un virus, quoi. Vous voyez, c'est pas non plus la mort au bout du tube. Enfin, j'ai l'impression qu'on dramatise énormément tout ça. Et je pense qu'un peu de culture...
Le Covid, vous voulez dire la dangerosité du Covid?
Ouais. Ben moi, tous les gens qui l'ont eu, moi, ils sont tous vivants.
Guéris,
vivants, guéris. Même
il y a plus jeune, plus âgé.
Deux personnes de 80 ans. Eh ben, ça va. En fait, tout dépend de ton état général. Après, évidemment, je ne veux pas me prononcer parce que je pense qu'il y a des méga-inflammations que tu ne peux pas contrôler, des pics sur les jeunes, par exemple. Mais je pense qu'on en fait beaucoup. Tout fermé comme ça, je trouve ça risqué. Je trouve qu'on va dans un monde où personne ne s'embrasse plus, vous vous rendez compte? Avant, on était sans arrêt en train de se faire la bise. Maintenant, on a peur d'agresser l'autre en même faisant une accolade. Je trouve ça va changer beaucoup de choses. Et moi, ça me fait flipper. Je fais partie des anciens. Je trouve que même pour les jeunes, c'est hyper dur ce qu'on nous force à vivre. Après, je vous dis, je n'ai pas évidemment tous les éléments. Sûrement qu'il y a des raisons, mais...
Alors là, une des raisons principales, notamment, c'est le caractère non essentiel, on va dire. Est-ce que, contrairement à ce que affirme la ministre Roselyne Bachelot ou le gouvernement, vous pensez comme Jean-Marc Dumonté, par exemple, le célèbre propriétaire de théâtre à Paris, qui dit... C'est essentiel.
Mais moi, je trouve...
Et il faut, et on peut mettre une personne sur deux ou trois dans une salle de théâtre, mais même... c'est important pour le moral des jeunes.
Mais Roselyne Bachelot aussi, je pense qu'elle pense que c'est essentiel. Oui, c'est ça. Oui.
Mais elle ne peut pas faire grand-chose.
Ben, elle ne peut pas faire grand-chose, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est essentiel, oui. Même, moi, j'étais très assidue des concerts. ça fait un an que...
Vous êtes super frustrée, comme tout le monde.
Oui, et après, on se rattrape, mais je trouve ça dommage qu'on puisse s'en passer. Alors après, on va faire quoi? C'est-à-dire qu'on va déserter. Moi, ça me fait flipper, oui.
Alors, un petit mot sur Nils Arestrup, dont on voit la photo à l'heure actuelle, qui était sur France 2 hier, au journal de Laurent Delahousse, et qui s'est dit un peu déçu et choqué par la façon dont le gouvernement ou le président parlait aux Français. Je crois que les Français sont drôlement gentils depuis un beau moment, a dit Nils Arestrup, depuis pratiquement un an. On fait tout ce qu'on leur demande, tous les efforts qu'ils peuvent, ce serait bien aussi de les respecter.
C'est
vous partagez son avis?
Complètement. Je trouve que les Français, je les pensais plus...
Rebelles que ça?
Ouais. Je les pensais quand même qu'on se laisserait... moins ferme, mais là peut-être c'est en train de bouger. Hein, mais...
On râle quand même un peu, évidemment. Mais...
Oui, on râle, on est français.
Oui.
Heureusement, mais je trouve qu'on est très très docile, c'est vrai. Mais moi, je suis toujours flippée, il faut avoir toujours son masque, il faut avoir son gel. Je trouve qu'on fait tout bien, oui. Après, il y a toujours cette histoire de lit d'hôpital, machin, de réanimation, mais moi, tous les gens qui l'ont eu n'y sont pas allés.
Mais du coup, ça vous choque quand le président de la République traite les Français de procureurs, de gens qui ne passent leur vie à les attaquer
ou... C'est des appellations, mais... Ça, vous savez, alors les commentaires, je trouve que oui, il a dit ça, mais je trouve ça bien qu'il le dise aussi. Moi, je me sens que j'ai pas envie de... Je trouve que j'ai pas tellement envie de me laisser faire, donc il a qu'à nous traiter de procureurs, ok, on va parler. Ouais.
Et on va accuser.
Voilà. Moi, j'aime bien quand on dit ce qu'on pense et qu'on parle que politique. Bon, il a dit ça. Et ben, mais nous, on a tout bien fait. Alors, on fait quoi? Est-ce qu'on peut réouvrir les procureurs? Ils veulent réouvrir. On va lui dire ça.
Exactement. Damien.
Allez, on va prendre une question de Lilian qui souhaite savoir quel est le moral des comédiens, vous qui les côtoyez au quotidien. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est l'état d'esprit actuel, sachant que, comme l'a rappelé Nicolas, les salles de spectacle sont fermées, les théâtres sont fermés, les tournages sont ralentis.
Il y a des tournages, bien sûr.
Il y a des tournages. Moi, je côtoie musiciens.
Ouais.
C'est la Grande Dépression, la musique. Ouais. Et je côtoie des acteurs, là, moi-même. Je suis en train d'essayer de... On répète au théâtre, mais on ne sait pas si on va jouer. Vous voyez, c'est... Donc, ton texte, tu l'apprends, mais il reste. Mais après, quelque part, inconsciemment, tu dis, peut-être qu'on ne va pas jouer. Donc, tu mets plus de temps. Mais en même temps, vous voyez, c'est la vie. Mais je pense que c'est vraiment super grave ce qui se passe, oui, pour... vous voyez, moi, encore, j'ai un projet... qu'ils se fassent ou pas, mais il y en a plein qui n'en ont pas. Et les musiciens, notamment d'orchestre, c'est hyper dur. Les chanteurs,
Tout ce qui est spectacle vivant, en fait.
Hein. Ouais.
Le théâtre, autant surtout... les films, les séries, ça peut se tourner dans des conditions...
Oui, mais surtout l'opéra et tout ça, tu ne peux plus rien faire. En plus, l'opéra, vous imaginez, pour le Covid, ils sont très, très proches les uns des autres.
Ouais.
Donc, moi, j'ai beaucoup de compassion pour eux, parce que je pense qu'il faut tenir, mais j'espère que... Les procureurs, là, ils vont se rebeller et qu'on va essayer de rouvrir un peu parce que je ne suis pas sûre que... Vous avez vu cette expérience en Espagne où il y a une espèce d'énorme rêve et personne n'a rien attrapé.
Bien sûr.
Mais justement, vous êtes optimiste pour l'avenir du spectacle vivant
en
France? Vous pensez qu'il va vraiment falloir changer de modèle et vraiment changer de logiciel?
Oui, mais je pense qu'il va aussi falloir s'habituer au virus. On en a partout en nous, des virus.
Vivre avec, bien sûr.
Ouais, vous en avez plein que j'ai pas, j'en ai plein que vous avez pas, vous voyez. Bon, celui-là est quand même coriace, mais enfin, il y a un moment, moi, j'ai plein de copains qui l'ont eu, ils sont là. Voilà, ils ont perdu le goût. Bon, c'est pas...
C'est sans doute un peu immunisé maintenant.
J'espère, mais c'est... Moi, je suis pas sûre que ça soit une guerre. Je ne suis pas sûre.
ça vous a coupé des projets. Vous aviez des projets en cours qui ont été arrêtés net par ça et d'autres qui vont reprendre, Julie, puisque vous parliez de projets.
Il y a des projets. Oui, j'ai des projets qui ont été... Mais moi, j'ai quand même de la chance d'avoir cette pièce que je ne sais pas si on va jouer, mais que j'ai intérêt à retenir. Et j'ai aussi...
Et Alexandra, elle, évidemment, là,
c'est... Alexandra, elle, normalement, on le refait, mais les tournages, c'est plus simple que les concerts et le théâtre. Mais j'espère que là, ils vont se rendre compte que le théâtre est en train de mourir. Enfin, c'est horrible. Donc, il va falloir qu'ils se... J'espère. Les procureurs vont le demander. Non, je pense. Et j'avais un autre truc qui... Je faisais une petite pièce avec... je parlais de Missia Certes, qui est la reine de Paris en 1900, avec une flûtiste et une pianiste. Et là, on a eu tout annulé. Et là, il y a quelqu'un qui nous prend en le streamant.
Ouais.
Donc, on est super contents.
Ben oui, c'est chouette. Au moins, comme ça, c'est partagé.
Alors qu'on pensait que tout allait tomber à l'eau. Il y a des nouvelles initiatives comme ça. Après, le streaming, ce n'est pas du théâtre non plus, ce n'est pas du vrai son.
Non.
Mais on fait ce qu'on peut.
Il manque la présence. Damien, on prend une dernière question et
oui,
on va passer à notre...
On va prendre une question de Monique qui rejoint d'ailleurs celle de Jean-Laurent, qui l'a posée un tout petit peu plus tôt, qui souhaiterait savoir si vous pourriez avoir des projets avec votre papa au cinéma, à la télévision.
On va vous le demander souvent, ça.
Ouais, et là, j'ai beaucoup de projets de déjeuner, hein, parce qu'il...
avec votre père.
Il n'arrête pas de passer faire des déjeuners, donc je lui dis merci. Il cuisine très bien, non? On n'a pas trop de projets, là. Même lui, les siens, je crois que c'est...
Ouais. Bien sûr, oui. Vous aimeriez retourner un film, une série, un truc avec votre père comme...
Ouais,
ça.
Pourquoi pas.
S'il faisait un guest dans Alexandrelle, par exemple, ça vous ferait rire.
Ouais, c'est marrant. Ouais, pourquoi pas. Mais je pense qu'il n'a rien contre, hein, lui. Il prend tout ce qu'il y a d'intéressant.
Ouais. Oui, bien
Donc,
sûr.
Donc, si on ne l'a pas fait, je crois qu'on n'a pas... ça ne s'est pas présenté, mais on fait des repas. Alors ça, ça, on en fait. Personnellement, je le vois quand même assez souvent.
Justement, c'est drôle qu'effectivement on parle de ça, parce que votre père avait été l'un des premiers à ne montrer aucun snobisme par rapport à la télé. C'est un des plus grands acteurs de cinéma français de l'histoire. Il est venu en télé faire des séries, des fictions.
La première, c'était Monte Cristo.
Tournée, exact.
Qui était vachement bien.
Et puis ensuite, il y a eu Napoléon, il y en a eu plein d'autres. Vous pensez aujourd'hui que cette barrière-là, que votre père était l'un des premiers à faire tomber, n'existe plus, qu'aujourd'hui des grands acteurs de ciné viennent à la télé inversement et que les chemins soient possibles entre les deux?
Je pense. Mais les Américains l'avaient déjà commencé. Et Gérard, c'est vrai, quand il l'a fait, même moi, je me disais...
Pourquoi il va en télé? Vous êtes posé la question.
Je me dis, il a raison, tout ça, mais ça m'avait surpris à l'époque, parce qu'il avait adoré José Dayan, Le Comte de Monte Cristo et le format télé. Moi, j'ai des très bons souvenirs de l'avoir vu. Il a, quand ça repasse sur Chérie 25, des fois, mais tu te dis, mais c'est...
Bien sûr.
C'est
Dayan. Il a joué dans un Marlowe comme vous aussi, en guest, absolument.
Ouais. Mais lui, ce qui compte, c'est les gens aussi. Je crois qu'il s'entend trop bien avec José pour lui dire non à quoi que ce soit. Je crois qu'il va faire quelque chose avec elle encore.
Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Julie, on passe tout de suite à notre rubrique de fin, le sucre et sel. C'est notre rubrique de fin, c'est notre petit bonbon à nous. C'est un peu une petite torture matinale, mais vous allez voir, nous on aime bien. C'est sucré salé. Évidemment, je vais vous demander de faire un choix. Vous êtes plutôt sucré, vous êtes plutôt salé. Vous pouvez choisir. Si vous deviez choisir, par exemple, entre Thomas VDB ou Bernard Yerles.
Vous êtes dégueulasse.
Ouais, là, c'est comme ça.
Parce que j'adore Thomas VDB.
Un dîner comme ça, lequel? Un petit week-end avec l'un des deux.
Non, mais vous êtes...
Ouais, je sais, c'est dur.
Ouais, non, parce que j'adore Thomas VDB. Ouais. Et Yerles aussi, mais Yerles, il fait un pain, il le fait tout seul. Donc je dis Bernard parce que, son pain, il est trop bon. Il fait son pain au levain et tout, c'est trop bon.
Alors, on vous appelle demain pour un tournage comme ça, sans hésiter. Vous allez avec José Dayan ou Yann Moix?
Yann Moix, je suis encore en contact avec lui. Hein. Mais José, de toute façon... Et c'est marrant parce que ces deux personnes, tu ne peux pas leur dire non.
Ouais,
José,
c'est...
non. Tu dis non, mais là, je ne peux pas... Non, fais, attends, je t'arrange tes dates, tout va bien, tu vas le faire. Je fais... Non, ok, merci. José, c'est ma copine en plus. Hein. Je la vois quand même très, très souvent.
Plutôt donc... José, alors.
J'aime beaucoup Yann.
Faire 80 000 entrées au cinéma ou 6 millions de téléspectateurs à la télé, si vous deviez choisir?
Moi, je suis pour le plus grand nombre.
Ouais.
Ouais.
C'est mieux 6 millions à la télé, 80 000
au
cinéma.
Ouais.
Télé ou cinéma, justement? Si par exemple, demain, on vous dit, Julie, tu ne peux plus faire qu'une seule chose, laquelle vous choisissez ? Télé ou cinéma ? Comme si on vous laissait plus le choix, en fait. Hein.
Ouais, bah, où en est le cinéma, déjà ? Est-ce que ça va réouvrir ? Voilà.
Vous avez le droit de répondre musique aussi.
Ouais,
c'est ça proposé, mais j'enlève télé-cinéma.
Voilà, musique.
S'il devait en rester qu'un, ce sera ça, oui. Musique plutôt.
Ouais, tu vas lire des textes avec Chopin derrière, moi ça me fait triper. J'adore tout ce qui concerne ça. Et des textes avec de la belle musique.
Et pour finir, drame ou comédie ? Vous savez très bien faire les deux, mais il y a une petite préférence dans les deux.
Comédie.
Ouais.
Même, oui.
Ouais.
Oui.
Oui. C'est bien. Et on en a besoin dans cette période. On en a bien besoin, Julie, vous avez raison. Merci en tout cas d'être venue dans le Buzz TV. Je rappelle qu'on vous retrouvera demain dans l'épisode inédit qui s'intitule La Peste.
Avec le masque.
Mardi avec le masque à 21h dans Alexandra L aux côtés de Bernard Hirless. Ne ratez pas évidemment cette fiction. Merci d'être venu.
Et Thomas VDB. On a plein de scènes.
Moi j'avais pris le chouchou, hein. Vous m'avez dit Bernard Hirless, donc j'ai dit Bernard.
Ouais, mais j'adore quand même Thomas.
Il y a Thomas VDB.
Merci Julie.
Et Damien, nous on sera là demain matin à la même heure.
On sera là demain avec un journaliste qui officie dans Quotidien et qui va présenter un prime sur TMC. C'est un documentaire qui s'intitule « Tous complotistes ». C'est assez mystérieux. Demain, nous recevrons Martin Veil au BSTV. Voilà.
Comploteur, comploteuse ou alors anti-complot, n'hésitez pas, vous serez là demain à 10h pour lui poser toutes vos questions. Bonne journée à toutes et à tous.
Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable ! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh !
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.